Dames en heren, volgende halt is het station van Tiene.
Alors, il y a des quêtes qui ont pris des années. Par exemple, ma collection de fer à repasser, c'est un peu comme les 105 éléments du tableau de Mendeleïev. Hein. J'en avais trouvé 104, je savais qu'il manquait le fa dièse. Et je l'ai trouvé finalement après, à savoir que les fer à repasser se récupèrent à l'ancienne. Hein. C'est des trucs non électriques, se trouvent sur les brocantes, mais ça devient de plus en plus difficile à trouver. Et quand il manque un fa dièse, qu'on a tout le reste, on peut déjà faire toutes les brocantes de toute l'Europe. Hein. Bref, je l'ai trouvé. Et puis maintenant, je suis en train de m'apercevoir qu'il y a encore moyen de prolonger dans les basses. Donc il y a des objets, des instruments objets qui sont vraiment à work in progress incessant. Ça, c'est très clair. Et sinon, d'une manière générale, moi, je ne cherche pas. J'ai tellement de choses déjà sous la main que je n'ai pas assez exploité encore que voilà, on pourrait m'enfermer, on pourrait me mettre en prison avec 5 de mes instruments que je crois bien connaître, ben, j'arriverai encore à en trouver quelque chose en huis clos, je pense. Et alors, bon, on parlait de ces fameux fer à repasser, ça reste quand même un des must parce que c'est un son qui est très stable. On pourrait croire que c'est un vibraphone, mais quand on écoute bien, c'est quand même très différent. Et je pense que c'est un son qui m'inspire beaucoup. Petit morceau de tarentelle. Chaque fer à repasser pèse 3,9 kg. Alors j'aime autant dire quand vous faites une brocante avec votre sac à dos pour repérer quelques nouvelles notes, généralement vous allez chez l'ostéopathe le lundi matin. Ça c'est le côté dangereux de la lutherie sauvage. Cube de contreplaqué. Chaque côté fait 60 cm. J'ai planté 2 séries de clous, à savoir que les plus grands font bien 20 cm de long et les plus courts sont des très petits clous. Et j'ai accordé ces clous simplement, les enfonçant progressivement avec un marteau. Au plus ils sont enfoncés, au plus le son est aigu, puisque c'est la partie qui est hors du bois qui vibre. Donc c'est un certain travail pour accorder. Quand l'instrument est accordé, ça bouge plus beaucoup. Et alors il me reste à les caresser avec un archet. Et ceci, c'est un archet de contrebasse, donc un assez gros archet, parce qu'il y a des gros clous aussi. Et c'est le frottement, vraiment, à la place de la corde du violon, c'est le clou du violon à clous qui vibre. C'est une simple... Voilà. Moi, je pense que ces instruments-là ont la faculté de créer, c'est au-delà du spectacle, c'est au-delà du show, de créer un espace sensible entre l'émetteur du son et le récepteur. Et par exemple, on parlait du violon à clous. J'ai l'expérience pour avoir fait des représentations scolaires, ça m'est arrivé, j'adore pas faire ça, mais ça m'arrive. Eh bien, il peut y avoir un chambard dans la salle parce que tout ne les intéresse pas, mais quand je sors le son du violon à clous, qui est pourtant tout petit, qui n'a aucune autorité, c'est pas du 120 dB, loin de là, eh bien, tout le monde la boucle et on entendrait une mouche voler, quoi. Sauf qu'à la place, on entend le violon violonner. Mais je pense que ma carrière a commencé assez facilement et autant elle ne commencerait pas si facilement aujourd'hui en 2022 ou 2023. c'est que je pense que dans le début des années 80, quand j'ai commencé à faire mes premiers essais, puis fin des années 80, on était encore fort dans un esprit de liberté qui avait été apporté par mai 68, mais par Mitterrand, par Jacques Lang, par les fêtes de la musique. Enfin, il y avait quand même toute une pensée qui allait vers l'ouverture et repousser les limites, ouvrir les fenêtres. Et j'ai l'impression que pour le moment, on est, et ça c'est un mouvement d'histoire bien connu, en train de faire tout le contraire, et que je commencerai aujourd'hui. Bon, voilà, je commence à être connu un peu par rapport à un cursus, mais je devrais représenter le même travail aujourd'hui. Je crois que j'aurais toutes les difficultés à dire oui, mais c'est du théâtre ou de la musique, oui, mais c'est pour les enfants ou pour les adultes, oui, mais. Et beaucoup de oui, mais finalement, parce que aussi le secteur culturel, je pense, et artistique, en se professionnalisant, c'est un peu stigmatisé aussi dans des catégories. Savoir que dans un centre culturel, il peut y avoir un responsable musique ou un responsable théâtre qui vont se renvoyer la balle d'une production comme les miennes, par exemple. Ben, je pense que je suis l'enfant d'une époque, tout simplement. Je suis aussi l'enfant des terrains vagues, parce qu'on jouait dans les terrains vagues, quand on était gamin, on ne vivait pas dans une matérialité très abondante. Et après l'école, le truc, c'était de faire le plus vite possible les devoirs. Heureusement, je n'avais pas de problème avec ça, pour aller courir dans le terrain vague pendant 2 heures, inventer des bateaux pirates et des choses comme ça. Puis après, jeune étudiant d'une petite vingtaine d'années, ben c'était... On était nourris de gauchisme, de freudisme, de structuralisme, de toute une pensée, enfin tout un mix idéologique comme ça, qui était finalement très très idéaliste et qui a presque totalement disparu aujourd'hui. Le déclic, je crois qu'il y a eu des petits déclics. J'ai commencé à faire de la musique quand j'étais ado. Et puis, petit à petit, je me suis retrouvé sur les chemins de... ayant commencé plutôt par la musique folk, trad, comme on appelait le renouveau des musiques folk hein, dans les années 70. Et puis, j'étais à l'académie, on m'a appris la musique classique, j'aimais ça. Et puis, petit à petit, je continue à faire de la musique, mais c'était jamais vraiment ma musique. Oui, mais c'est quoi ma musique? Voilà, c'est un instrument que j'avais pas inventé, c'est de la musique que je n'avais pas composée. Finalement, j'avais un petit problème d'expression et d'appropriation des choses. Et je crois, par esprit un peu taquin, je me suis amusé à détourner d'abord des éléments d'instruments de musique, genre une clarinette, c'est en 4 parties, tiens, si on en retire 2, ça fait quoi? Et puis, ça mène vite très loin, et puis on met un bout de la clarinette sur la trompette, ça devient franchement plus marrant. Et puis on se dit, bah, tiens, il y a un arrosoir, ça ressemble à un saxophone, sillon, et puis... petite trouvaille par petite trouvaille, sans aucune prétention, ni acoustique, ni scientifique, ni musicale, je me suis retrouvé à créer un petit empire d'instruments inventés. Et puis un beau jour, le vrai déclic, ça a été de décider de bifurquer, d'investir là-dedans et d'en faire une passion et un métier. C'est là qu'est né mon tout premier spectacle, Symphonie d'objets abandonnés. Et il y avait bientôt 40 ans, et entre-temps, je n'ai pas arrêté.
Alors celle-ci a la particularité d'être jouée avec des objets quotidiens collectés avec amour, donc tous les brocantes, compagnons d'Emmaüs, etc., n'ont aucun secret pour nous. Également, quelques voisins donateurs très bienveillants, l'appel est lancé. Voilà, alors parmi la symbolique des objets qui peuplent cette gamme, donc on a un assortiment unitaire de bières belges, c'est important, Westmalle, Orval, etc., ça rime, et ça sonne très très bien ensemble. Un petit pot de fleurs en mie, que je soumets à votre attention, un petit cendrier en ré, voilà. Et alors surtout, n'oubliez pas, une ancienne assiette de la tombola de chez Deleuze. Vous avez connu ? provincial bouquet, ça s'appelait. Alors on devait remplir un carnet plein de petits timbres, et puis on devait payer encore 400 balles, et puis on recevait une pile d'assiettes, évidemment, qui n'étaient pas d'une qualité à toute épreuve, parce qu'une fois placées dans le lave-vaisselle, elles se fendillaient l'une après l'autre, et les deux exemplaires qui restent de ces assiettes de la Tombola Tchétolaise sont les uniques exemplaires. Donc on en joue avec délicatesse et parcimonie. Cela s'appelle le temps de retrouver les maillots adéquats. La valse naïve, vous pouvez danser.
Il y a eu des hasards. Mon tout premier spectacle, cette symphonie d'objets abandonnés, par excellence, c'était mes premières trouvailles. C'était, j'ai fait un truc avec des pots de fleurs, avec un aspirateur, avec des boîtes de conserve, avec des cailloux. J'ai mis tout ça en scène, avec tous des petits numéros séparés. Puis je me suis dit, tiens, au fond, j'ai envie d'appeler ça symphonie. Et puis j'ai créé une bande-son de 4 minutes qui reprenait tout le bazar. Et c'était le final du spectacle où je courait d'un instrument à l'autre pour mettre tous ces instruments dans une unité de composition. Et je pense que c'est le plus hétéroclite des spectacles que j'ai créés, parce qu'ensuite, il y a eu le concerto pour deux vélos, voilà, sans commentaire. Il y a eu l'homme de Spa, petit commentaire, spectacle uniquement à partir de bouteilles en plastique et d'eau. Donc là, on est dans du fort thématique. Et puis après, une série d'autres expériences, comme les chaises musicales de Pataphonie Centrale, où j'ai ramassé des chaises sur les encombrants, comme on appelle ça, donc les poubelles de plein air. Et j'en ai construit 33 chaises musicales pour faire une expo spectacle. Et puis, à la suite de tout ce grand pool instrumental qui avait été créé, j'ai commencé à utiliser les instruments autrement que dans leur premier usage. Et donc, c'est là que j'ai commencé à faire des travaux en collaboration avec d'autres musiciens, notamment avec des pianistes qui ont été respectivement Marc Hérouet, Franck Oetz actuellement. Et puis, dernièrement, dans ce dernier projet de CD, Pataphonie à la petite musique des choses, dans laquelle, carrément, on a fait une écriture pour un quartet et moi-même, quoi. Le quintet au total, mais moi, je joue les instruments pataphoniques, le percussionniste Fan Pougin, dans une large mesure aussi, mais les autres jouent des instruments conventionnels. Et là, ça a été la big réunion des instruments pas comme les autres, avec les instruments comme les autres, et qui prouve quand même que la musique reste un langage universel, même si on tape sur des boîtes de conserve. Alors ici, on va faire une série de petits trucs avec ces bouteilles, avant d'aborder le tango verdé que nous jouerons demain. Alors il suffit, j'ai assez parlé, il suffit de me regarder, je vais presque plus rien dire. Thank you. Alors, la pataphonie, c'est, on peut l'imaginer différent. D'abord, c'est très gai, dire pata, ça sonne bien. Et puis, il y a cette référence à la Patagonie, terra incognita. Donc, la pataphonie, c'est un peu comme un pays, mais que j'imagine et que j'entends et que je vis au quotidien, d'ailleurs, comme un pays dans lequel la musique est le langage principal. Et la musique sort de partout, et le son s'exprime de partout. Et pas uniquement des radios, des violons et des haut-parleurs, mais des tables, des chaises, de tout ce qui peuple. Voilà, c'est, voilà, on y fête, paraît-il, la fête de la musique tous les jours de l'année, sauf le 21 juin, qui est la fête du silence. Et alors, évidemment, formidable, et ça, c'est quand même, c'était bien avant les surréalistes, hein. Il y avait quand même des grands malades, comme on dit, début du XXe siècle, ben, Jarry. 1903, la fondation du collège de pataphysique, définie comme la science des solutions imaginaires. Moi, j'adore ce genre d'idées. C'est comme la lutherie sauvage, en fait, c'est des mots qui sont un peu comme des oxymores. Et parce que science et imaginaire, évidemment, ça ne va normalement pas du tout ensemble. Ceci dit, si on fréquente des scientifiques de haut niveau, on voit que justement, ça va très bien ensemble. Et puis, j'ai trouvé que voilà, cette pataphysique appliquée à la musique pouvait s'appeler de la patamusique. Et, ou simplement de la pataphonie quand on reste rien qu'au niveau du son déjà. La décoration de la maison reprenait certains éléments, on va dire un peu surréalistes. J'adorais à l'époque acheter pour pas cher des panoplies. Et donc j'avais acheté une panoplie pour moins d'un euro à l'époque, c'était encore des francs belges, de brosses à dents. Il y avait 26 brosses à dents sous plastique et que j'avais encadré parce que je trouvais que ça beau, voilà. Ce petit côté pop art, j'avais mis au mur. Et un beau jour, mon fils aîné m'a fait une scène en disant « Mais écoute papa, on va quand même pas oser inviter des copains dans une maison où on met des brosses à dents au mur !» Voilà, ça c'est, voilà je pense après qu'on a utilisé les brosses à dents comme brosses à dents. Et puis, maintenant, voilà, ils ont bien vu tout le chemin qui a suivi. Et un de mes fils, d'ailleurs, vient couramment me donner un coup de main quand je cale sur une réalisation, parce qu'il est vraiment super balèze au niveau du bricolage et des bonnes idées. Et voilà.
Hier après-midi, nous avons ouvert la page de mon livre « Instruments de musique en papier et carton » à la page 1 et nous avons réalisé un premier bruiteur qu'on appelle le sifflet. Puis-je entendre un sifflet pour ceux qui ont reçu leur sifflet ? Merci. Voilà. Au départ, ce n'est pas vraiment un instrument de musique, mais il peut le devenir moyennant... manipulation précautionneuse. Le deuxième effet s'appelle le pétard. Vous connaissez ? C'est un truc qui fait beaucoup de bruit, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, évidemment. Donc, puis-je entendre les pétards ? On va essayer de synchroniser. Attention, je vais dire 1, 2, 3, boum, ok ? 1, 2, 3. Vous dire aussi qu'en début de séance, personne n'arrivait à produire ce son miraculeux, son qui, semble-t-il, a été enregistré par la production de Simon & Garfunkel à l'époque, dans une chanson qui s'appelle The Boxer, qui faisait, attention, préparez-vous, lie, la lie, voilà, quelque chose comme ça. Et beaucoup ont cru que c'était un fouet, mais en réalité, c'était un pétard en papier, confectionné aux ateliers au Château Gilson à la Louvière hier après-midi. En pataphonie, tous les raccourcis sont possibles. Et en troisième lieu, last but not least, comme on dit au Wallon d'Angleterre, la vache ou mobilette. Là, allez-y, soyez pastoral. Voilà, on entend déjà les mobilettes. On peut les applaudir, c'est formidable. Voilà la version chantée, la version bruitée de la salsa boliviana. Et si vous écoutez bien, vous pourrez rapidement nous rejoindre et chanter avec, comme on dit en belge.
toujours la question qui vient, qui est cruciale, c'est la question d'écologie et de l'implication possible et du bien fondé, finalement, de cette lutterie sauvage par rapport à ce qu'on appelle la planète, hein. On devrait dire le respect du vivant, parce que la planète, elle se portera très bien sans nous, je pense. Évidemment, je pense que ma pratique est profondément écologique, et je pense que l'écologie, la vraie définition de l'écologie, c'est la proximité, c'est le circuit court, c'est ce qui est à portée de main, et c'est ce qui a prêté oreille de mammouth, notre ancêtre, quand il a inventé la musique, à ramasser un os, une pierre, et simplement, dans cette lutterie sauvage, je rappelle ce geste naturel qu'est la musique et qui est de s'approprier un environnement immédiat pour le mettre en vibration, pour exprimer des choses. Et voilà, je crois que dans ce sens-là, c'est profondément un art écologique. Et j'ajoute fort tristement que malheureusement, c'est pas en tapant sur des boîtes de conserve que je vais sauver notre humanité et tout le vivant qui vit du réchauffement climatique et toutes ces horreurs-là.
Instrument acoustique singulier, une série documentaire de Jean-Bernard Roser avec la participation et les créations sonores de Max van der Voorst. Merci aux ateliers La Tête en l'air, Julie Montigny. Production ASBL-sandorigine.be, accompagnée par l'atelier de création sonore radiophonique et soutenue par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.